Alors, nous commençons une nouvelle série après Bethléem sur le sermon sur la montagne. Et on va commencer par le commencement, hein, les béatitudes, une partie des béatitudes aujourd'hui. Mais avant de lire en Luc et en Matthieu, hein, quelques paroles d'introduction. Alors, je suis sûr que si on demandait aux gens quel est le passage qu'ils ont retenu, hein, de l'enseignement de Jésus, ils citeraient les béatitudes. Je parle des gens en général, bien sûr. Alors peut-être même que certains citeraient le sermon sur la montagne ou certaines parties du sermon sur la montagne. Donc les chapitres 5 à 7 de Matthieu, en gros. Alors c'est vrai que c'est effectivement un aspect important, un aspect original de l'enseignement de Jésus. Même si c'est souvent mal compris. Il faut quand même le dire en introduction. Il faut dire que le sermon sur la montagne pose un certain nombre de problèmes aux chrétiens. Je sais que c'est les premiers chapitres de la Bible que j'ai lus quand j'ai eu une Bible, quand j'avais 12 ans. Je me souviens qu'il y avait quand même quelques... C'est pas évident de commencer par le sermon sur la montagne. Et donc, on peut se dire, qui n'a pas eu de difficulté en tombant sur le passage, par exemple, où il est dit qu'il faut tendre l'autre joue ? Ah, comment comprendre ? Et quand Jésus dit qu'il faut donner à celui qui demande, là aussi, est-ce que ça veut dire qu'il faut donner à n'importe qui ? Il faut donner des allumettes à nos enfants, pour qu'ils... voilà. Est-ce qu'il faut donner un billet de 50 euros à notre fils aîné qui en demande un tous les jours ? Non. Voilà, je n'ai pas dit non, j'ai dit la question est posée. Est-ce que ça veut dire ça ? Alors, en tout cas, ça pose des questions. Et Jésus lui-même, on sait, n'a pas toujours donné satisfaction à tous ceux qui lui demandaient quelque chose. Et il y en a eu des gens qui lui ont demandé quelque chose. Quand les pharisiens lui ont demandé, par exemple, un miracle ou de produire un signe miraculeux, Jésus a refusé catégoriquement. Donc, dans le sermon sur la montagne, Jésus nous met aussi en garde contre les paroles méprisantes, par exemple. Et il y a cette parole qu'on cite souvent, il nous interdit d'appeler quelqu'un « raca », imbécile. Mais lui-même a appelé les pharisiens « race de vipères », Matthieu 23. Autrement dit, nous trouvons dans le sermon sur la montagne des commandements qui sont difficiles à mettre en pratique et que Jésus lui-même n'a pas toujours mis en pratique à la façon dont on s'y attendait. Donc il y a des commandements qu'il faut manifestement essayer de mieux comprendre. Alors, le sermon sur la montagne existe en deux versions. Et les formules frappantes de Jésus, il les a utilisées, ces formules frappantes, à plusieurs reprises dans des contextes différents. Donc c'est normal qu'il y ait deux versions, un peu différentes. Une version un peu abrupte, un peu condensé, c'est Luc, et une version un petit peu plus longue, où il explique un peu plus les choses, c'est Matthieu. Alors, dans Luc, nous avons une version plus abrupte, une version, on va dire, plus provocatrice, qui a dû vraiment attirer l'attention des foules. Et donc, on va d'abord lire ce passage, Luc, quelques versets en tout cas, Luc 6, 20 à 23, ces versets qu'on lit peu souvent en prédication. Luc 6, tout d'abord, donc, 20 à 23. Jésus leva les yeux vers ses disciples et dit « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, ils vous diront, ils vous chasseront, vous insulteront, vous rejetteront, et rejetteront votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des prophètes. » Donc ça, c'est la version de Luc, transmise, un des discours de Jésus sur ce thème, transmis par Luc. Alors on peut se dire, mais comment, comment est-ce qu'on peut déclarer heureux les pauvres? Ça commence comme ça. C'est heureux vous les pauvres. Heureux vous les affamés. Comment on peut déclarer heureux les pauvres, les affamés, les malheureux de la terre? Est-ce que c'est simplement que parce que plus tard, ils seront récompensés, ils sont proclamés heureux maintenant, parce que plus tard, ils auront une récompense? Ne serait-ce pas là, alors, une justification de toutes les injustices du monde? Voilà. Les injustices sont permises parce que les gens seront heureux plus tard. Ça, on pourrait aller dans ce sens. Non, il faut mieux comprendre, je crois, que Jésus est en train de faire ici ce qu'il a souvent fait dans des entretiens particuliers et parfois aussi devant les foules. Jésus dit ici les choses d'une manière très concrète, matérielle, alors que le sens de son propos est spirituel. Et on voit ça souvent dans les évangiles. Il parle par exemple à ses disciples du levain des pharisiens. Il leur dit pas de se garder de mettre du levain dans le pain, ben non. Il leur dit de se garder de l'enseignement des pharisiens, qui ajoute du levain à la parole de Dieu. Et puis il dit par exemple à Nicodème qu'il faut naître de nouveau. Mais il ne parle pas du tout de la naissance naturelle. Il parle de la naissance de l'esprit, de la nouvelle naissance. À la Samaritaine, il dit « Quiconque boit de cette eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Alors elle comprend ça littéralement dans un premier temps. Mais non, il parle de l'eau vive et de la vie nouvelle qu'il veut donner. Et la semaine passée, on a vu en Jean 6, ce passage un peu dur, où il dit à la foule qu'il faut manger sa chair et boire son sang. Mais on avait bien vu que c'était une métaphore, une image osée, pour dire qu'il faut croire en lui, se repentir et croire en lui. Et que la chair ne sert de rien, avait-il dit. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand Jésus parle de la sorte dans les béatitudes? Eh bien, d'un côté, les gens sont intrigués et cherchent à comprendre, comme Nicodème. Je veux dire, voilà. Comme la femme samaritaine, quand Jésus parle de façon provocatrice, abrupte. D'un côté, les gens sont intrigués et cherchent à comprendre. Ou alors, ils sont dégoûtés. D'un autre côté, il y a des gens qui sont complètement dégoûtés et repartent en disant que Jésus est fou. C'est la fin du chapitre 6 de Jean qu'on avait vu. Donc, ces propos concrets, ces propos provocateurs font le tri entre ceux qui sont venus en curieux, en touristes, et ceux qui sont prêts, qui sont venus en curieux vraiment pour apprendre quelque chose, et ceux qui sont venus bien en touristes, prêts à se moquer à la première occasion, prêts à voir tous leurs préjugés se confirmer. Et donc le tri qui s'opère. Et donc il y a des gens qui cherchent vraiment. Qui sont des chercheurs d'authenticité, et il y en a qui ne cherchent pas, et le tri se fait ainsi. Et donc c'est dans l'évangile de Matthieu que nous avons un début d'explication des propos provocateurs cités par Luc. On va lire maintenant la version destinée à ceux qui ne se laissent pas rebuter par une première impression. Et donc c'est Matthieu 5, 3 à 12. C'est le passage que nous allons suivre maintenant. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et s'assit. Et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, on vous persécutera, on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors, à la lecture des béatitudes de Matthieu, on peut peut-être être soulagé. Jésus n'est pas en train de fournir de l'opium pour le peuple, une drogue pour oublier les malheurs présents. Mais à y regarder de près, notre soulagement sera de courte durée. Car même dans leur version expliquée et commentée de Matthieu, les béatitudes nous lancent un sacré défi. Les béatitudes nous lancent un vrai défi spirituel. Nous sommes sans doute loin de vivre pleinement l'idéal que le Seigneur Jésus nous présente ici. Voilà le défi qui est devant nous. Alors reprenons quelques mots et une première partie. Alors tout d'abord, heureux, c'est le premier mot qui frappe. Alors ce mot, ceux qui lisent la Bible savent qu'il est ailleurs dans la Bible. Il est dans les psaumes, il est dans Ésaïe, quelques psaumes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous avez reconnu peut-être le psaume 1, verset 1. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Psaume 32, verset 1, un psaume bien aimé aussi des chrétiens. Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Psaume 119, et on pourrait citer d'autres psaumes, psaume 128, etc. Et puis heureux tous ceux qui se confient en lui. Ésaïe 30, verset 18. Donc on le sent bien. Il ne s'agit pas de ce que nous appelons aujourd'hui une béatitude, c'est-à-dire un bonheur béat. Non, il ne s'agit pas du doux sentiment. Le mot heureux ici ne recouvre pas le doux sentiment qui nous étreint après un bon repas. On est là complètement dans Béa. Non, ce n'est pas ce bonheur-là dont parle Jésus. Jésus proclame heureux, en effet, ceux qui pleurent, ceux qui sont persécutés. Donc on peut dire que c'est le bonheur de ceux qui se trouvent du bon côté, du côté de la vérité, du côté de Dieu. Et ils ont de la chance, sauf que ce n'est pas une chance, on sait bien. Et ils sont du côté de ce qui dure, de ce qui transcende l'existence terrestre, de ce qui est éternel. Voilà ce qui est dit. Et le paradoxe, c'est que cela peut inclure une mesure de difficulté, une mesure de frustration, voire de souffrance dans le temps présent. Et l'apôtre Paul en parle à sa manière. En Romains 5, début du chapitre 5, il dit « Nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or l'espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. » Alors ça c'est le mot bonheur, heureux. Et puis il y a le mot pauvre. Luc dit « heureux les pauvres », on a dit que c'était un petit peu court. Matthieu apporte des précisions, il dit « heureux les pauvres en esprit ». Et on peut préciser encore ce qu'il dit, comme le fait la Bible du Semeur. Et je crois que c'est une excellente traduction. « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres ». Parce que c'est bien de ça dont il est question ici. « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres ».« Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes ». Voilà, dit une autre version. Donc, la pauvreté matérielle n'est pas... Il ne parle pas ici de pauvreté matérielle. La pauvreté matérielle, en effet, n'est pas une source de bonheur. Elle n'est pas un passeport pour le royaume de Dieu non plus. La pauvreté matérielle peut vous rendre amer. Elle peut faire de vous des avares. Elle peut vous pousser à la violence. Elle peut vous pousser aussi à la révolte contre Dieu. La porte d'entrée dans le royaume de Dieu, c'est la pauvreté spirituelle. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. La porte d'entrée dans le royaume de Dieu, c'est quand on sait qu'on ne mérite pas grand-chose. C'est quand on sait qu'on ne peut se prévaloir d'aucun droit devant Dieu. C'est quand on se présente à Dieu les mains vides, complètement vides, et que l'on compte uniquement sur sa bonté à lui, sur sa générosité, sur sa grâce qui a tout fait pour notre salut. Et donc la vie dans le royaume de Dieu, c'est quand on continue après dans cette attitude. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, ce n'est pas seulement au début de la vie, au moment de la conversion, quand on découvre le salut par grâce. C'est tout au long de la vie. La vie dans le royaume de Dieu continue dans le même état d'esprit, c'est-à-dire sans orgueil, sans prétention, sans croire qu'on est devenu quelqu'un. C'est l'humilité, la clé de tout. Et on peut quand même ajouter quelque chose. L'humilité, des fois, est mal comprise. Il faut bien préciser qu'on peut réaliser de grandes choses et rester humble. Jésus n'est pas dans la logique de la médiocrité, du manque d'ambition. Il y a une certaine pseudo-humilité chrétienne qui va dans ce sens, qui n'a pas donné de bons fruits. Il veut au contraire que les disciples visent haut, qu'ils aient de l'ambition spirituelle. Donc c'est dans l'humilité que nous voulons construire l'Église ici à Rosny. Et puis il ajoute, heureux ceux qui pleurent. Mais qui pleure? À quel sujet? Nous pourrions voir là quelque chose de très général, un peu dans la ligne de ce que dit l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste qui dit, heureux ceux qui vont dans les maisons de deuil. Alors Ecclésiaste 7, 2 et 4, je lis. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans celle où l'on festoie, car celle-là nous rappelle quelle est la fin de tout homme. Et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. L'attention du sage se porte au lieu où l'on pleure un deuil, celle de l'insensé au lieu où l'on se livre à la joie. Donc la vie compte une dimension tragique qu'il est bon de ne pas oublier. Mais le même Ecclésiaste invite aussi les jeunes à profiter joyeusement de la vie. Il dit que nous devons nous réjouir, manger, boire, travailler, dormir, en recevant ces choses comme un don de Dieu. Et Jésus, on se le rappelle aussi, s'est bien réjoui à table avec ses amis. Donc, heureux ceux qui pleurent, ce n'est donc probablement pas une prime générale accordée à la tristesse. Ça ne veut pas dire soyez tristes. Même si la consolation que Dieu accorde, ils seront consolés, dépasse toutes les tristesses qu'on pourrait avoir. Et on se rappelle que Jésus n'a pas mené une vie de tristesse, une vie austère. Nous devons comprendre cette béatitude en relation avec les autres béatitudes. Ceux qui sont spirituellement pauvres, qui se savent pauvres spirituellement, peuvent parfois pleurer, par exemple sur leur indignité, tout comme ceux qui ont faim et soif de justice, qui vont pleurer parce que cette faim et soif de justice les tenaille. Ceux qui témoignent de la bonté aux autres vont parfois pleurer avec ceux qui pleurent. Et ceux qui sont opprimés pour la justice et qui sont persécutés vont certainement pleurer les injustices qui les frappent. Et nous pleurons avec eux aussi. Donc on pleure aussi dans la Bible le péché. On pleure toutes les manifestations du péché. Jésus pleure aussi sur Jérusalem qui ne se repent pas, sur le cœur de son peuple qui est opposé, qui reste dur par rapport à Dieu et à sa parole. Il a pleuré aussi devant le tombeau de Lazare. Et nous pleurons nous aussi pour les différents sujets que nous venons de citer. Une piété sombre, il faut quand même ajouter qu'une piété sombre et dépressive a bien existé dans l'histoire de l'Église. Les tristes chrétiens. Elle est présente encore aujourd'hui dans certaines traditions. Mais vouloir toujours pleurer nous éloignerait du but que Jésus cherche ici. Il cherche surtout un certain réalisme sur nous-mêmes. Il cherche de la compassion pour un monde qui souffre, avec un monde qui souffre. Il cherche l'acceptation des injustices qui nous frappent en tant que croyants. Donc, il ajoute aussi, Dieu consolera. Un jour, et c'est ça qui nous tient également dans nos combats, un jour l'injustice sera redressée. Un jour, le péché ne sera plus. Et c'est là la grande bonne nouvelle de l'Évangile également. Et puis il ajoute, il parle des humbles et des doux. Alors nous n'allons pas beaucoup nous attarder sur les humbles et les doux, qui sont sensiblement les mêmes que les pauvres en esprit. Mais on peut se demander pourquoi ils reçoivent la terre en héritage. Alors on pense aux psaumes. Dans les psaumes, les humbles sont souvent mis à l'honneur. Par exemple, psaume 37. D'ici peu, le fini le méchant, tu demanderas où il est passé. Il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession, ils jouiront d'une paix profonde. On voit ça dans plusieurs psaumes, les psaumes d'enseignement, psaume 37 ici, 10, 11. On voit tout de suite que dans la pensée du psalmiste, ce n'est pas à un roi qu'appartiennent les terres. C'est Achab qui pensait ça, et surtout Jézabel qui l'a poussé au meurtre à cause de ça. Ce n'est pas non plus aux conquérants qu'appartiennent les terres. Ce n'est pas non plus aux riches. Selon la législation de Moïse, car tous les 50 ans, les terres devaient revenir à leur premier propriétaire, quelles que soient les vicissitudes de la vie. La terre appartient à ceux qui marchent humblement avec leur Dieu. Je ne sais pas si jamais cet idéal a été réalisé, même en petite partie en Israël, mais elle se réalisera un jour dans le royaume de Dieu. Être humble et doux, c'est être bien positionné pour l'étape finale. Et puis il ajoute surtout, ceux qui ont faim, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux, et donc ici, il faut se demander de quelle justice il s'agit. Alors il serait tentant d'y voir la justice sociale, la justice entre les hommes. Et ce serait tout à fait conforme à la vision de la Bible. Tant que nous sommes sur la terre, nous n'avons pas le droit de nous désintéresser du sort de ceux qui sont nos frères en humanité, nos frères en Adam. Nos œuvres bonnes doivent être pratiquées et d'une manière visible et efficace. Nous sommes les héritiers des prophètes de l'Ancien Testament, tels que Amos, qui ne supportait pas de voir les pauvres exploités et les riches comblés d'honneur. Mais, en toute honnêteté, il faut remarquer que Jésus a probablement en vue la justice personnelle, celle qui, selon lui, doit surpasser la justice des scribes et des pharisiens. Et c'est dans cette veine que le reste du sermon sur la montagne a été écrit et se continue. Jésus met en avant, non par exemple, on va le voir, la forme littérale de la loi de Moïse que pratiquaient les pharisiens avec toutes sortes de subtilités juridiques qui permettaient à ces gens de s'y soustraire. Mais il met en avant l'intention profonde de la loi de Dieu. Et il nous appelle aussi à la perfection. On va le voir au chapitre 5 de Matthieu, verset 48. Les exigences personnelles du maître touchent, dit-il, doivent toucher nos paroles, mais aussi nos pensées, aussi bien que nos actes. Il va en profondeur. Jésus proclame heureux, non pas ceux qui auraient atteint la perfection, comme si c'était possible ici-bas, on n'a toujours qu'un commencement d'obéissance, mais il proclame heureux ceux qui désirent vraiment se conformer à la volonté de Dieu. Et donc avoir faim et soif de justice, c'est à la portée de tout le monde. C'est un but à viser, c'est un pèlerinage, c'est un combat. On pourrait dire c'est une course, pour employer tous les mots bibliques. Or, les courses, on connaît ça. Le Tour de France, c'est une course. Alors, il serait peut-être prétentieux de viser le podium. C'est vraiment dur. Mais on peut viser de finir la course sur les Champs-Élysées. C'est déjà pas mal, après avoir fait le Tour de la France. Rien de moins ne devrait nous satisfaire si on était participant au Tour de France. Et donc, c'est un peu ça. Regardons un instant notre façon de courir. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? À quel péché sommes-nous si habitués que nous ne le voyons même plus? Est-ce que c'est la paresse? On pense à plein de choses, mais est-ce que c'est la paresse? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la dureté envers autrui? Est-ce que c'est la soif de posséder. Voilà les péchés les plus souvent montrés du doigt dans la Bible et qui détruisent le plus facilement la vie chrétienne. Qui sait, qui sait que celui en tout cas qui croit être debout prenne garde de tomber. Et puis il y en a qui ont des problèmes avec leur dérailleur. Il y a des crevaisons aussi sur la route. Il y a des chutes, parfois sans gravité, c'est vrai, mais parfois avec des fractures à la clé, des choses qui détruisent la vie. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir faim et soif de justice même quand on a une chute. Parce que contrairement à ce qui se passe sur le Tour de France ou d'autres compétitions, aucune chute ne nous met hors de course, définitivement, si on veut vraiment la reprendre, cette course. Alors c'est vrai que les chutes laissent des traces. La chute peut changer dramatiquement nos circonstances de vie. Mais avec Jésus, nous trouverons toujours une main tendue qui nous relève. Voilà la bonne nouvelle. C'est un peu la main tendue de Jésus à Thomas, il faut toujours se rappeler, Thomas. Et cette main tendue de Jésus a trouvé Thomas après ses doutes. Et puis c'est la main tendue à Pierre que Jésus a trouvé après sa trahison. Donc avoir faim et soif de justice. On peut trouver à cet égard que aujourd'hui, la piété des temps modernes dans les églises a changé. Nous sommes plus portés sur la grâce. Nous sommes plus portés à prêcher sur la grâce que sur le péché. Ça, c'était pas tout à fait pareil il y a quelques années et au siècle passé. Nous sommes plus sensibles qu'autrefois aux injustices du monde. Ça, c'est un point positif. Mais nous sommes moins portés aussi, on va dire, à l'insatisfaction spirituelle, à l'introspection, au retour sur nous-mêmes. Nous sommes plus dans la louange que dans la repentance, pour faire bref. Alors, il ne faut pas dire que j'étais mieux avant. Il y a des gens qui disent ça, mais ça ne sert à rien. Et on peut simplement constater que c'était différent et que cette différence peut parfois nous interroger, nous inquiéter même. Je me demande si, en tant que chrétien, on a assez faim et soif de justice. On peut penser que non. Et je peux penser que non pour ma vie. C'est pour cela, sans doute, que je suis heureux quand ceux qui font la première partie du culte donnent une certaine place à la confession des fautes, à la repentance, comme on l'a fait aujourd'hui avec ce cantique « Sonde-moi, ô Dieu ». On n'apprécie guère le salut si on ne sait pas d'où on a été tiré. Et puis il ajoutait, ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Jésus est juif, il prêche dans ce contexte, dans l'évangile de Matthieu, un auditoire juif. L'évangile de Matthieu a bien été écrit pour les juifs. On a l'habitude de ne pas prononcer le nom de Dieu dans le judaïsme. Et donc, on parle, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, du royaume des cieux. Et on dit, au lieu de parler du royaume de Dieu, pour ne pas prononcer le nom de Dieu, on dit aussi, frappez et l'on vous ouvrira. Alors, c'est qui on ? C'est Dieu, bien sûr. C'est une formule pour ne pas prononcer le nom de Dieu à tout bout de champ. Et quand il est dit, ils seront rassasiés, c'est Dieu qui les rassasiera. C'est sous-entendu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, Dieu les rassasiera. Alors c'est Dieu qui rassasie. Et puis c'est au futur. Il y aura toujours un décalage, ça veut dire qu'il y aura toujours un décalage entre ce que nous sommes et ce que nous devrions être. Mais ce futur est une certitude, par contre. Dieu comblera toutes nos attentes, il effacera jusqu'au souvenir de nos fautes. Il nous rendra semblables un jour à Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, pensons par exemple à certains traits de caractère que nous conservons et que connaissent spécialement nos conjoints ou nos conjointes et auxquels ils se sont habitués bien forcément, pas pu faire autrement. Ces traits de caractère disparaîtront, imaginez ça. Pensons à ces pensées de violence qui nous assaillent ou des pensées de haine parfois qui nous viennent ou des pensées de sexe, ou des pensées de vengeance, qui nous assaillent donc sans que nous le voulions, vraiment. Elles disparaîtront. Pensons à ces blessures psychologiques, psychiques, qui empêchent de fonctionner normalement. Et on a tous un petit quelque chose. Eh bien, elles disparaîtront aussi. Nous serons comblés un jour, comme dit le cantique. Et je crois que dans une certaine mesure, nous commençons déjà à être comblés maintenant. C'est ça, la bonne nouvelle des béatitudes. Déjà maintenant, nous commençons à être comblés. Par exemple, à force de fréquenter le Seigneur Jésus, un peu plus chaque jour, un peu de lui déteint sur nous. C'est la puissance du Saint-Esprit. À force de nous ouvrir à la parole de Dieu, l'Esprit qui l'a inspiré nous change de l'intérieur, de jour en jour, imperceptiblement. Ce n'est pas nous qui le voyons, c'est les autres qui le voient. À force de nous approcher de Dieu, parfois honteux, parfois par la force de l'habitude, il faut le dire, parfois la pensée ailleurs, mais à force de nous approcher de Dieu, dit le texte de 2 Corinthiens 3, nous sommes quand même transformés de gloire en gloire par la puissance de l'Esprit de Dieu et de sa parole. Et donc le meilleur est encore à venir, mais nous le goûtons déjà ce meilleur. Donc ne cessons jamais, voilà ce que nous dit cette béatitude, ne cessons jamais d'avoir faim et soif de justice. Alors concluons, une petite conclusion, et elle ne va pas avoir le temps d'aller jusqu'à son malin. On va s'arrêter là aujourd'hui aux béatitudes, dans les béatitudes, on va s'arrêter sur un exercice spirituel. Je vais vous demander d'identifier dans ces quatre premières béatitudes laquelle vous interpelle le plus, et puis pas de me le dire à moi, mais d'en faire un sujet de prière spéciale tout au long de cette semaine. Amen.